Teen Star FM,
la radio qui parle aux jeunes.
Bonjour et bienvenue sur Teen Star FM, la radio des lycéens d'Ernest Ferrouille. Vous connaissez l'équipe, Blanche, Florent, Anissa, Théo et Raphaël. Bonjour l'équipe, c'est Maëlys à la technique et on est très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission. Nous allons commencer par un tour de table des thèmes que nous allons aborder. Raphaël, que vas-tu nous présenter aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui dans notre série Info et Complot, nous allons parler des reptiliens.
Hâte de découvrir ça ! Blanche, que s'est-il passé dans les établissements scolaires dernièrement ?
Eh bien, je vais aborder les mouvements de grève qui ont secoué l'éducation nationale ces derniers temps.
Très bien. Et toi, Florent, tu nous emmènes découvrir le patrimoine de la région, c'est bien ça ?
Oui, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des citadelles du Verty.
Et enfin, Théo, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui ?
J'ai décidé de vous parler des personnages historiques de la région, en commençant par Ernest Ferrouille, dont notre lycée porte le nom.
Dans ce cas, ne perdons pas de temps et voilà tout de suite la chronique de Raphaël.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Info et Complot, nous allons attaquer un sujet bien connu, les reptiliens. Oui, vous connaissez sûrement cette théorie, mais connaissez-vous vraiment son origine ? Pour ceux dont j'ai déjà perdu la compréhension, ou qui cacheraient quelque chose, un reptilien est une créature sous forme de reptile à l'allure humaine. Ils sont à la base un mythe, une légende, et font partie de la pop culture. D'après des complotistes, ils seraient éternels et se nourriraient d'énergie négative, de peur et de violence. Tandis que certains pensent qu'ils ont toujours vécu là, d'autres pensent qu'ils viennent d'ailleurs, comme les extraterrestres. C'est donc une créature bien mystérieuse ou juste une belle invention internationale, mais surtout américaine, car oui, en 2013, on trouvait pas moins de 4%, soit 12 millions, de cette population qui y croyait. Aujourd'hui, presque 12% pensent qu'ils sont parmi nous, tapis dans l'ombre, pour contrôler l'espèce humaine. Pour revenir à leur origine, la première apparition des reptiliens fut en 1967 grâce à l'écrivain Brad Steiger, qui est un ufologue et donc qui travaille sur l'étude des ovnis et phénomènes inexplicables. Son livre, Flying Saucers Are Hostile, ne me remerciez pas pour l'accent, ne fut que le début, car en 1982, Dale Russell fit une découverte. Grâce à un crâne de troodon, il pensait que certains auraient évolué et seraient comme des reptiles, humanoïdes, dinosauroïdes, et que si les dinosaures n'étaient pas morts, cette espèce serait dominante. La question que nous nous posons tous maintenant, c'est comment les reconnaître ? Eh bien, selon les complotistes, même s'ils vivent sous terre pour se protéger, certains remontent à la surface pour nous manipuler. On les reconnaît car ils changeraient régulièrement la taille de leurs pupilles, ils auraient des comportements étranges et ce seraient souvent des gens de pouvoir car cela leur permettrait de créer des guerres pour que l'espèce humaine s'entretue, ce qui entre nous est en train de se passer. Pour l'anecdote, en 2014, John Key, le premier ministre néo-zélandais, a été forcé de démentir à la télé qu'il n'était pas un reptilien. En fin de compte, cela peut être n'importe qui, comme George Bush, Barack Obama, votre grand-mère raciste, Justin Bieber, ou même notre chère Elisabeth II, ce qui, entre nous, expliquerait son immortalité.
Merci Raphaël, c'est à toi Blanche.
J'aimerais revenir sur un événement assez tape à l'œil qui a eu lieu en janvier. C'est une rébellion historique qui se profile au niveau national. Les AED, que l'on connaît plus familièrement sous le nom de surveillants, se réunissent au sein d'un mouvement collectif dans le but de manifester des revendications bien spécifiques. Parmi ces dernières, on peut citer la possibilité d'être titularisé ou CDIsé, avec une augmentation des salaires, la réduction du temps plein à 35 heures hebdomadaires, et enfin le paiement intégral des heures de nuit passées à l'internat. Les AED avaient prévu une grève de 3 jours au cours de laquelle diverses actions ont eu lieu, afin de faire comprendre leur message aux organismes concernés. Nous nous sommes rassemblés devant la DSDEN à Carcassonne le 19 janvier à 10h, précisent les membres de la vie scolaire du lycée Ernest Ferrouille à Lézignan-Corbière. Un piquet de grève devant les établissements a également eu lieu le 20 à 9h45. Cet événement-ci s'est produit dans l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Et pour finir en beauté, tous les AED de la région se sont donné rendez-vous devant la préfecture, place des Martyrs de la Résistance à Montpellier le 21. Les grévistes ont également demandé une audience afin d'être entendus par les représentants de l'éducation nationale.
Tout en restant dans la région, sortons prendre l'air avec la chronique de Florent.
Les citadelles du Verty. Vous avez certainement déjà entendu ce terme, mais savez-vous ce que cela désigne ? L'expression apparaît pour la première fois en 1967, lorsque Michel Roquebert, historien et écrivain français, publie un ouvrage du même nom. Ce dernier traite des divers châteaux cathares qui surplombent notre territoire. Il s'avère que Roquebert est l'un des plus grands spécialistes du catharisme, avec son apport important de connaissances. Pour rappel, les cathares étaient des hérétiques aux yeux de l'Église catholique. Ils ont été tous violemment éradiqués par l'armée royale et l'Inquisition durant tout le long du XIIIe siècle. En 2011, le département de l'Aude a souhaité reprendre cette nomination, afin de proposer à la candidature 7 bastions cathares sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On cite Aguillard, Lastours, Pierre Pertus, puis Lorenz, Quiribus, Termes dans l'Aude et Montségur dans l'Ariège. À leur tête se trouve la cité de Carcassonne, déjà classée au patrimoine mondial depuis 1997, et ce parmi les 44 autres biens français inscrits sur la liste. L'élaboration du dossier de candidature a été en partie confiée à un comité scientifique, alors composé d'historiens, d'archéologues, de conservateurs de patrimoine et de géographes de la région. Ces derniers participent encore activement au projet, comme lors de la mise en place de la charte d'engagement adoptée en 2019. Celle-ci vise à créer un partenariat entre les différents acteurs des communes concernées. Ainsi, aujourd'hui, l'heure est à l'écriture du plan de gestion du bien. Pour s'y faire, des ateliers de concertation publique sont organisés, réunissant habitants, associations, acteurs touristiques, viticulteurs. Chacun concrétise à sa part pour valoriser plus que jamais ce patrimoine exceptionnel, que sont les citadelles du Vertige. Alors si vous aussi vous souhaitez soutenir la candidature de la cité de Carcassonne et de ses châteaux sentinelles de montagne, rendez-vous sur citadelleduvertige.od.fr.
Merci Florent, et restons dans la région et ses personnages importants avec la chronique de Théo.
Ernest Féroul est né le 13 décembre 1853. Après des études de médecine à Montpellier, il s'installe à Narbonne où rapidement il devient le docteur des pauvres, réputé pour ses compétences. En 1891, il est élu maire de Narbonne et en 1898, député. Le 5 mai 1907, durant le rassemblement des préfectures et sous-préfectures du Languedoc-Roussillon, Ernest Féroul prend position pour la lutte des viticulteurs du Midi, ce qui le rendra célèbre par la suite. À l'époque, le vin de la région était pauvre en alcool. Alors, pour remédier à ça, il a été décidé de le mélanger à du vin d'Algérie qui était française à l'époque. Mais avec la surproduction, l'offre a dépassé la demande et le prix a chuté, ce qui a fait perdre beaucoup d'argent aux vignerons de la région. Ce qui donnera lieu à de nombreuses manifestations, souvent violentes, comme à Montpellier le 9 juin 1907, qui sera l'apogée du mouvement. Ernest Féroul, pour soutenir les vignerons, a décidé de démissionner de son poste, ce qui va lancer un mouvement de révolte qui va être suivi par 442 municipalités du Languedoc-Roussillon, qui vont elles aussi démissionner en une semaine seulement. Georges Clemenceau, à l'époque président du Conseil, l'équivalent du président de la République à l'époque, envoie une lettre de menace au maire du mouvement et reçoit de la part d'Ernest Féroul cette réplique cinglante. Monsieur Clemenceau, depuis le commencement de nos manifestations, nous a considérés comme de grands enfants, bons garçons, mais inconscients de leurs actes. Il est de ceux qui pensent que dans le Midi, tout finit par des chansons ou des farandoles. Il se trompe grandement, il ne nous connaît pas. Pour rétablir l'ordre, Clemenceau fit appel à l'armée avec 22 régiments d'infanterie et 12 régiments de cavalerie. Le 19 juin, Ernest Féroul est arrêté et emprisonné à Montpellier car il était l'un des chefs des manifestations. Après ça, les manifestants saccagent de nombreux monuments et symboles de la République dans la région. Les différents organisateurs et autres dirigeants de la révolte seront finalement graciés en 1908. Ernest Féroul devient le premier président de la Confédération Générale du Midi. Il est donc l'un des piliers de l'histoire de la région. On le remercie infiniment pour son travail. Il est mort le 29 décembre 1921.
Merci l'équipe, c'était un plaisir de vous avoir pour cette deuxième émission et on se dit à la prochaine.